La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, en Jésus, son Fils, notre Sauveur. Bienvenue à tous dans cette maison de prière. Bienvenue aujourd'hui dans ce temps où nous accueillons les enfants pour l'éducation biblique et aussi une famille qui vient nous demander un baptême, ici même, dans cette église. Et j'accueille donc la famille Razafindrazaka, qui sont avec nous ce matin et qui ont demandé le baptême de leur petite fille. Nous allons vivre donc, les enfants, un baptême ensemble. Et c'est une grande aventure que ce baptême, parce que c'est toujours un moment inaugural, quelque chose qui commence un chemin, et nous avons la joie de le commencer ensemble avec cette petite fille qui va recevoir ce baptême. Je vous invite à prier ensemble pour que nous puissions être rassemblés dans la communion, dans ce temps de culte. Seigneur, nous sommes tous ici ce matin dans ton Église. Permets que nous soyons rassemblés aussi dans notre cœur, les uns avec les autres, que nous soyons tous en communion. Nous te prions pour l'enfant qui va recevoir le signe de ta grâce. Que chacun ici soit compté au nombre des témoins de ton amour pour ce monde. Et que notre foi fasse grandir notre amour du prochain. Envoie ton Esprit Saint sur nous. Que nous soyons éclairés par ta lumière. Amen. Et nous nous réunissons dans la communion fraternelle avec le premier chant du livret qui est inséré au début du psautier. Il faudrait que... Ensemble, nous redisons notre louange envers le Seigneur et je vous invite à entendre le psaume 111. Louez le Seigneur, je célébrerai le Seigneur de tout mon cœur, dans le conseil secret des gens droits comme dans la communauté. Les œuvres du Seigneur sont grandes, recherchées par tous ceux qui y prennent plaisir. Son action est éclat et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a fixé le souvenir de ses actes étonnants. Le Seigneur est clément et compatissant. Il a donné de quoi manger à ceux qui avaient foi en lui. Il se souvient pour toujours de son alliance. Il a révélé à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant le patrimoine des nations. Les œuvres de ses mains sont loyauté et équité. Toutes ses directives sont sûres et pour toujours et à jamais inébranlables, faites avec loyauté et droiture. Il a envoyé la libération à son peuple. Il a institué pour toujours son alliance. Son nom est sacré et redoutable. Le commencement de la sagesse, c'est la foi dans le Seigneur. Ils ont du bon sens, tous ceux qui s'en inspirent. Sa louange subsiste à jamais. Amen. Nous pouvons chanter notre louange avec le psaume 66, les strophes 1, 2, 3 et 4. Et c'est aujourd'hui Alexandre qui nous accompagne et le chœur de l'oratoire est avec nous.
Thank you.
Voilà, écoutons ce que le Seigneur nous demande. Et pour cela, dans l'Évangile, il est écrit « Jésus appela un enfant, le plaça au milieu d'eux, au milieu de ses disciples, et il dit « Amen, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme cet enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci m'accueille moi-même, dit le Seigneur. » Chantons ensemble. Pardon. Je vous invite à vous asseoir et nous allons nous remettre sous le regard du Seigneur. Et c'est un moment, les enfants, où on peut regarder ce qu'on a fait dans sa vie quotidienne et tout ce qu'on a fait qui n'est pas forcément très glorieux pour le nom du Seigneur et donc tout ce qu'on peut faire pour changer aussi. Donc c'est un moment où on peut reprendre un peu le cours de sa vie autrement et donner à Dieu tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui nous sépare de lui, tout ce qui nous angoisse aussi. Et donc c'est le moment qu'on appelle le moment de la repentance. Nous nous présentons au Seigneur. Seigneur, nous te présentons tous nos manquements, tout ce que nous n'avons pas fait alors qu'il le fallait, nos colères, nos jugements, tout ce que nous disons de nos frères et que nous devrions garder pour nous. Reprends, Seigneur, reprends tout cela et sauve-le. Nous te présentons nos manques de foi en toi, nos manques de foi en nos frères, les hommes. Reprends, Seigneur, reprends et sauve tout cela. Seigneur, nous te présentons toutes ces incompréhensions, toutes nos incapacités à aimer. Reprends, Seigneur, reprends et sauve, car tu es le sauveur de tout homme qui se tourne vers toi. Tu es une lumière dans la ténèbre. Tu te fais frère pour nous. Tu nous écoutes et nous comprends. Tu es la présence humaine auprès de nous. Toi, le Dieu qui semble parfois si lointain, tu es tout proche et tu es là pour témoigner de ta grâce envers nous. Alors Seigneur, convertis-nous à ta grâce. Amen. Quand on s'est présenté ainsi au Seigneur, il ne nous laisse pas comme ça dans la tristesse de ne pas pouvoir être comme il voudrait. Le Seigneur nous reprend dans son amour et nous dit sans cesse qu'il ne faut pas nous inquiéter, il nous aime, quoi que nous fassions. Et voilà comment il annonce cela, et des prophètes ont essayé de le dire, pour dire que même quand tout bascule, tout semble complètement fichu, le Seigneur est toujours là. Et voilà ce qui est écrit dans Ésaïe. Quand les montagnes s'effondreraient, vous imaginez une montagne qui s'effondre, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Donc rien ne peut secouer cette alliance qui est entre Dieu et les hommes. Je t'aime d'un amour éternel, dit Dieu, et je te garde ma miséricorde. C'est-à-dire qu'il a un cœur gros comme ça et qu'il est là avec cet amour-là pour nous. Nous pouvons chanter notre louange pour ce Dieu qui nous aime, quoi que nous fassions et où que nous en soyons dans notre vie. Et nous nous levons. Voilà, je vais maintenant accueillir la famille de notre petite baptisée de ce matin et je vais leur demander de me rejoindre. Cécile et Renaud, vous pouvez venir me rejoindre, venir près de moi, avec aussi les parrains et marraines de votre enfant. Venez. Voilà, Cécile et Renaud, vous avez demandé que votre enfant reçoive le baptême. L'Église aujourd'hui accueille votre désir avec joie et affirme sa foi. Et nous avons choisi de prendre ce matin un texte qui vient de Madagascar, qui est un pays cher à la famille qui est avec nous ce matin. Et nous allons donc écouter cette façon de dire sa foi, une façon possible. Voilà.
J'étais aveugle et maintenant je vois. Sans ce récit de créature déchue, Seigneur, j'aurais cru que tu avais créé un monde de souffrance, d'amertume et de fatalité déplorable. Mais, ô merveille, tu es en train de bâtir une terre nouvelle. Sans l'unité de tous les chrétiens, par la foi commune en Christ, Seigneur, j'aurais cru que tu avais créé des peuples de différentes races, couleurs, langues et cultures, destinés à se haïr, se mépriser et se battre. Mais, ô merveille, tu nous rassembles en frères et sœurs dans la vie éternelle. Sans la joie et la volonté de donner, de partager, d'échanger et de s'enrichir mutuellement, Seigneur, j'aurais cru que tu avais créé des êtres égoïstes, conditionnés à s'exploiter. Mais, ô merveille, malgré la différence de ressources, nous sommes prêts à nous aimer et à nous aider. Sans la lumière de ta parole de vérité, Seigneur, je serais resté dans les ténèbres. De mon ignorance, mon scepticisme, mes préjugés et mon arrogance. Aujourd'hui, je ne sais qu'une chose. J'étais aveugle et maintenant, je vois.
Merci. Voilà, je vous invite à chanter ensemble. Au début du psautier, le spontané de la confession de foi. Gloire à Dieu dans les cieux, sur la terre et d'éternité en éternité. Je vous invite à vous asseoir. Voici la volonté de Jésus-Christ pour son Église. Il nous dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dit le Seigneur. » Renaud et Cécile, votre enfant va être baptisé au nom du Père, qui lui donne le souffle de vie. Elle va être baptisée au nom du Fils, Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité et qui l'appellera à son service. Elle va être baptisée au nom du Saint-Esprit qui fera naître en elle la foi, l'espérance et l'amour. C'est notre espérance commune. Il y a de l'eau ici, dans ce baptistère, et c'est de l'eau tout à fait ordinaire. Et cette eau peut servir à toutes sortes de choses, et notamment à rafraîchir un enfant quand il fait très chaud. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais c'est une eau qui n'est pas magique. Mais avec la parole de Dieu, cette eau devient eau du sacrement, eau d'une nouvelle naissance, signe visible de la grâce de Dieu sur l'enfant qui reçoit cette eau. Chaque jour, notre baptême nous rappelle, pour ceux qui sont baptisés ici, que nous dépendons de Dieu seul et qu'ensemble, nous vivons de son amour. Nous croyons que cela est vrai pour nos enfants, même s'ils sont trop petits pour le savoir encore. En effet, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Dieu nous l'a promis, nous sommes à lui, il nous connaît chacun par notre nom. Renaud et Cécile, quel prénom avez-vous choisi pour votre enfant ?
Chloé.
Chloé. Retenez bien ce prénom, parce que maintenant elle fera partie de la famille. Et je vais maintenant baptiser cette petite enfant.
Ça va aller, Chloé ? Chloé, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Je vous laisse faire. Chloé, alors attendez un petit peu, je vais maintenant prononcer cette bénédiction. Chloé, pour toi aussi, cette parole est vraie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et c'est cette vie éternelle qui t'est donnée aujourd'hui. Amen. Voilà, je vais... Oh là, non, peut-être pas tout de suite. Alors, attends un petit peu. On va... Peut-être faut-il maintenant entendre les engagements des parents, parrains et marraines qui entourent cet enfant dans ce beau moment. Et nous allons donc les écouter prendre leurs engagements auprès de cet enfant. Si vous voulez bien prendre le micro. Voilà. Ça va ?
Notre histoire familiale nous a fait entrer dans la communauté religieuse chrétienne. Aujourd'hui, Chloé, tu commences à être consciente des pas que tu accomplis, tu t'exprimes avec tes mots mal articulés et tu construis ou détruis maladroitement les tours de ta sœur. Ton chemin de vie sera aussi animé par des moments de rire, de maladresse et de doute parfois. Ce chemin, il y a mille façons de le traverser. Avec ce baptême, nous aimerions te transmettre ce qui nous aussi nous a construit et ces valeurs qui nous ont construites. L'ouverture à l'autre, le respect, la bienveillance et l'optimisme nous accompagne quotidiennement sur cette même route que tu commences à emprunter aujourd'hui. Nous serons là avec ton parrain, ta marraine, ta famille et ta communauté pour t'aimer, te guider et t'entourer.
Merci, merci beaucoup.
Chloé, j'ai été témoin de l'amour que se portent tes parents. Aujourd'hui, je m'engage à te quitter lorsque tu le souhaiteras ou lorsque tu en auras besoin. Tu vivras de belles choses et j'espère en partager quelques-unes avec toi pour renforcer ce lien. Sache que je serai également présent dans les moments difficiles.
Ma chère Chloé, j'ai été très heureuse et honorée lorsque ta maman m'a demandé d'être ta marraine. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de joie que nous célébrons ton baptême. J'espère pouvoir être toujours présente à tes côtés pour t'accompagner tout au long des étapes de ta vie. Je te souhaite de continuer à rayonner et à aimer la vie comme tu sais déjà si bien le faire.
Merci beaucoup. Et maintenant, c'est le moment pour nous aussi, nous qui sommes tous ensemble avec la famille de Chloé, la communauté dans laquelle elle pourra grandir dans sa foi, c'est à notre tour de nous engager. Et je vais maintenant vous présenter cette petite fille, si elle veut bien venir avec moi, Chloé, parce que évidemment, elle a déjà sa personnalité, ses envies et ses désirs, c'est normal. Tu veux bien venir avec moi? Non? Alors regarde, avec ta sœur, avec Lucie, regarde. On va aller voir tous ces gens qui font partie de ta famille maintenant, ta famille spirituelle. Voici Chloé, frères et sœurs, et sa grande sœur Lucie, qui l'aide beaucoup dans sa démarche, parce qu'elle était très, très présente et très active au moment où nous avons préparé ce baptême. Et voilà Chloé, votre petite sœur, elle est ici chez elle, elle est dans cette maison avec vous qui êtes sa famille spirituelle. Et si un jour elle venait à s'en séparer, vous affirmerez qu'elle peut toujours y retrouver sa place. Et ce sera pour nous une joie, oui, d'aller voir maman, oui, c'est vrai, une joie qu'elle confesse un jour sa foi dans cette église ou dans toute autre église du Christ. Ce sera pour nous une joie très profonde de savoir qu'elle a fait ce chemin avec nous. Voilà notre petite Chloé. Je vous invite maintenant à chanter notre joie et à chanter nos vœux pour Chloé à travers le cantique 204, les strophes 1 et 2. à vous asseoir. Voilà, je vous invite. J'ai perdu mon chat. Et je vais maintenant partager avec vous la lecture biblique que vous allez pouvoir, pour les écoles bibliques, étudier avec Aurélien, qui va tout à l'heure vous aider à comprendre mieux ce texte. Et puis les catéchumènes resteront avec nous, parce qu'ils sont quand même assez grands pour comprendre une prédication. Alors le texte d'aujourd'hui est dans le livre des Actes, au chapitre 8, les versets 26 à 40. Et vous avez le texte, les enfants, hein. Vous pouvez lire en même temps si ça vous aide, si ça ne vous aide pas, écoutez. L'ange du Seigneur parla à Philippe. Il lui dit, « Lève-toi et va vers le midi sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, administrateur de tout son trésor, qui était venu adorer à Jérusalem. Il s'en retournait assis sur son char et il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et rejoins ce char. » Philippe y courut. Il l'entendit lire Ésaïe le prophète et dit, « Est-ce que tu comprends vraiment ce que tu lis ?» Il dit, « Et comment le pourrais-je si personne ne me guide ?» Il pria Philippe de monter et de s'asseoir près de lui. Alors, le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, on l'a conduit pour l'égorger, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Ainsi, il n'ouvre pas la bouche. Par son abaissement, son jugement a été levé. Sa génération, qui la racontera? Car elle est enlevée de la terre, sa vie. L'eunuque, répondant à Philippe, dit, « Je t'en prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Philippe, ouvrant la bouche et partant de cette écriture, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Ils s'en allèrent sur la route et arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, c'est possible. Et répondant ainsi, il dit, je crois que le Christ est le Fils de Dieu. Il ordonna d'arrêter le char, et tous les deux, Philippe et l'eunuque, descendirent dans l'eau, et Philippe le baptisa. Et quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, l'eunuque ne le vit plus. Mais il allait sa route tout joyeux. Quant à Philippe, il se trouva à Azote. Sur son passage, il annonça la bonne nouvelle dans toutes les villes jusqu'à son arrivée à Césarée. Voilà l'histoire du baptême de l'eunuque éthiopien. Alors vous allez voir ça ensemble avec Aurélien à l'école biblique tout de suite quand vous allez entendre la chorale qui va maintenant chanter un choral de Bach. Voilà, avant de pouvoir prêcher, nous allons prier ensemble pendant que les enfants de l'école biblique quittent le temple. Seigneur, guide-nous. Sois notre guide, comme Philippe le fut pour l'eunuque éthiopien. Sois celui qui éclaire nos lectures et qui guide nos paroles. Permets que nous soyons avec toi dans le même esprit. Amen.
Il court, l'Esprit Saint. Vous avez vu, il n'arrête pas. Sur les routes de l'Israël qui a tant de problèmes avec ses religions, il est sans cesse là à interpeller, convertir, changer la vie de ceux qui sont animés par lui. Le livre des Actes nous raconte comment la parole de Dieu est annoncée de Jérusalem jusqu'à Rome et parfois bien plus loin encore. De la ville sainte jusqu'à la ville de l'envahisseur, la ville du païen, l'Esprit Saint n'en finit pas d'animer les hommes pour qu'ils annoncent cette bonne nouvelle du salut. Plus que l'histoire de la vie des apôtres, le livre des Actes est le livre sans doute de l'Esprit Saint. Dans la continuité de l'évangile de Luc, ce livre nous raconte comment l'Esprit Saint reçu à la Pentecôte va œuvrer dans le cœur des apôtres et de tous ceux qui les croisent pour transformer, convertir leur vie, au moment même où le Messie, Jésus, le Sauveur, lui est mort sur la croix, n'est plus avec eux. Il a disparu de la vie des disciples, enlevé brutalement à leurs yeux. Ce chapitre 8 est à la jonction des différentes parties du livre des Actes des Apôtres. Le récit que nous avons lu nous fait passer de la vie de la communauté des disciples du Christ, cette vie craintive et persécutée à Jérusalem, à celle d'une communauté de diaspora, éclatée et portant la bonne nouvelle du salut dans les villes et les territoires éloignés de Jérusalem, et de même coup, souvent, trouvant une certaine paix dans ces territoires un peu moins houleux. Il faut dire que dès le début des communautés chrétiennes, les apôtres seront inquiétés par les pouvoirs en place, qu'ils soient religieux ou politiques. Tous les pouvoirs s'acharneront sur ces pauvres disciples, ce qui à l'époque est souvent lié le religieux et le politique. Il n'y a pas tellement de césure. Ainsi, les chrétiens se trouvent toujours au mauvais endroit, avec la mauvaise pensée, la mauvaise idéologie. Étienne est lapidé et sa mort coïncide avec le début de la grande répression qui va marquer la Jérusalem de l'époque. Les disciples du Christ seront donc obligés de quitter Jérusalem et c'est donc la répression, paradoxalement, qui va faciliter la diffusion de l'Évangile. C'est parce que ces hommes sont obligés de fuir, de s'en aller dans d'autres territoires, que la parole va pouvoir essaimer partout. Et ce tragique destin de cette communauté qui était rassemblée autour du Christ au départ et qui, au début, était d'abord familiale, ce destin va changer et ça va devenir leur grandeur d'avoir été ainsi persécutés parce qu'ils vont pouvoir aller ailleurs et donner cette parole à d'autres. Obligés de partir sur les routes, les apôtres et tous les disciples de Jésus vont devenir des colporteurs de la foi du Christ. Et ils vont donc faire des rencontres qui façonneront durablement la structure même de notre christianisme. Peut-être est-ce là la clé de l'histoire intrigante que nous raconte ce chapitre des Actes des Apôtres. Philippe, en accomplissant son devoir de témoin du Christ, disparaît après aux yeux de l'eunuque éthiopien. Et au lieu de se trouver dans la peine de ne plus voir son guide, l'éthiopien est dans la joie. Dans cette seule description est retracé le geste même du livre des Actes. Apporter la joie du baptême du Christ, malgré la disparition physique de celui qui a guidé le pas de ceux qui l'ont suivi. Apporter le salut dans le vide et l'absence du Messie. Dire la joie et la résurrection après la misère impossible à dire de la croix. Par bien des côtés, ce récit de baptême est un nouveau récit de résurrection. Quelque chose se passe pour tous ces hommes qui ont cru, qui ont suivi Jésus et qui se trouvaient dans un vide complet après sa mort. Ils sont tout à coup en train d'inventer autre chose. C'est ainsi que la route de l'eunuque éthiopien va croiser celle de Philippe, et l'on voit combien l'Esprit Saint est le personnage principal tout indiqué de cette rencontre. En effet, quoi de plus adapté que cette force spirituelle, impossible à capturer, qui résiste à toute persécution parce qu'on ne peut pas le saisir, qui ne connaît ni les contraintes liées au lieu, ni liées aux distances, ni les contraintes liées au temps. L'Esprit Saint traverse tout cela. L'Esprit souffle où il veut et on ne sait jamais ce qu'il va se passer avec lui. Et aucune barrière ne peut l'arrêter, ni spatiale, ni temporelle, ni linguistique, puisque le livre des Actes s'ouvre sur le don de l'Esprit Saint faisant communier et communiquer les hommes et les femmes entre eux, quelle que soit leur langue maternelle. Cet Esprit Saint transcende aussi les fonctions de chacun dans cette nouvelle façon de vivre la religion. Car Philippe est un personnage aux multiples fonctions. Il enseigne, il baptise, et on pourrait croire que c'est le Philippe apôtre qui fait tout cela. Eh bien non, c'est le Philippe diacre. Il voyage, il ouvre des chantiers d'évangélisation où ensuite Pierre arrive et reprend ce qu'il a démarré pour pouvoir continuer. Et Pierre donc rejoint Philippe très souvent pour aller là où Philippe a d'abord touché le cœur des foules et où il a converti déjà beaucoup de monde. Au départ, Philippe est un homme d'origine grecque, son nom l'indique, qui a été appelé à être diacre et donc à servir et à organiser les repas pour les veuves qui sont elles aussi d'origine grecque. Et du service de table, il passe apparemment facilement au service des miracles, au service de la formation biblique, pour finir par baptiser les gens. C'est un hyper apôtre, et il est tellement bon que quand il a de la concurrence, par exemple Simon le magicien, qu'il va rencontrer un peu avant, qui fait des prodiges, qui séduisent beaucoup les foules, il arrive à le convertir et à le baptiser lui aussi, tellement Simon le magicien trouve que Philippe est extraordinaire avec tout ce qu'il fait. Il fait passer ainsi Philippe du rôle de concurrent à celui de disciple, ce qui est quand même extraordinaire. Décidément, il est très fort, ce Philippe. Dans l'épisode qui nous intéresse, Philippe est envoyé par l'Esprit Saint vers la Samarie, sans doute l'actuelle Naplouse. Il est appelé en plein midi, sous une chaleur incroyable, et c'est une folie d'aller là-bas alors que la chaleur est telle à son maximum et que c'est une route désertique. Mais peut-être la rencontre de Jésus avec la Samaritaine à la sixième heure en plein soleil est un motif qui rejoint ce motif de cette rencontre, ou bien la lumière du midi est celle peut-être de la révélation qui inondait le désert lorsque Abraham a accueilli les trois visiteurs, ou encore cette lumière irradiante sur la route de Damas qui donnera cette conversion extraordinaire un chapitre plus loin pour Saül, qui sera ensuite appelé Paul. Toujours est-il que c'est en pleine lumière que se fait la rencontre entre Philippe et cet eunuque éthiopien. Ce qui veut dire que les diacres, les disciples, les apôtres n'ont plus peur. Ils osent s'avancer vers ceux qui cherchent un salut. Ils osent annoncer la bonne nouvelle en pleine lumière. Cet Éthiopien n'est pas n'importe qui. Il occupe de hautes fonctions à la cour de la reine des Nubiens, sans doute les Nubiens de l'île de Méroé. La Candace, je dis la Candace, ce n'est pas du tout vulgaire dans ma bouche, hein. C'est simplement qu'on dit une Candace comme on dit un pharaon, c'est-à-dire que c'est le nom qu'on donnait à toutes les reines de cette même dynastie matrilinéaire, qui étaient donc les reines d'Éthiopie. À l'époque, quand on parle d'Éthiopie dans le monde antique et israélite particulièrement, c'est très vague. Il ne s'agit pas du tout des limites du pays actuel, mais d'une région qui marque pour les anciens l'extrémité sud du monde civilisé. Philippe est donc celui qui va, comme Paul après lui, aux confins du monde. Il va rencontrer ceux qui sont loin. Il y a donc ici le souhait de montrer une dynamique d'expansion rapide du christianisme, sans barrières, sans limites. Cette rencontre improbable se fait alors que l'eunuque revient de pèlerinage. Alors, est-il juif ? Sans doute est-il un prosélyte, un homme qui a embrassé la foi juive, mais par sa nature même, sa façon même d'être, il ne peut pas, parce que physiquement il n'est pas complet, si j'ose dire, il ne peut pas prétendre à faire partie intégrante du peuple de Dieu, parce qu'il est eunuque. On comprend ici que le problème des eunuques perdurait à cette époque, alors que les Écritures en parlaient déjà depuis fort longtemps. Dans le Deutéronome, il est écrit qu'un eunuque, donc un homme qui ne peut pas ou ne peut plus engendrer de descendance, n'aura pas part au peuple de Dieu. C'est une exclusion pure et simple. Et déjà, dans le prophète Ésaïe, on va tenter de réviser cette exclusion parce qu'on est devant un phénomène particulier au retour des exilés qui ont été faits aux fonctionnaires dans les royaumes païens et donc qui ont été faits eunuques. Ils reviennent à Jérusalem et évidemment ils ne sont plus les mêmes, à beaucoup d'égards. Et là on se dit comment les accueillir, comment faire en sorte qu'ils fassent encore partie du peuple de Dieu alors qu'il y a des écritures pour dire qu'ils n'en font absolument pas partie puisqu'ils ne peuvent pas avoir de descendance. Ils reviennent d'exil, amoindris, humiliés aux yeux des autres. L'exil leur a retiré le pouvoir de procréer, et dans le même temps le droit de faire partie du peuple de Dieu, ce qui n'est pas rien. L'eunuque éthiopien du livre des Actes représente un accomplissement de la prophétie d'Ésaïe, puisque le prophète Ésaïe écrit que l'étranger qui s'attache à Israël ne dise pas « l'Éternel me séparera de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « voici je suis un arbre sec ». Car ainsi parle l'Éternel, aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférables à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, tous les peuples. Le Seigneur, l'Éternel, parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Voilà ce qu'on trouve dans le prophète Ésaïe au chapitre 56. Une énorme ouverture à tous ceux qui veulent ensemble louer le même Dieu, sans distinction d'origine, sans distinction non plus de critères physiques particuliers. L'homme que rencontre Philippe cumule les deux handicaps. Il est étranger et il est eunuque. Mais cela ne l'empêche pas de lire le prophète Ésaïe à voix haute, comme cela se faisait dans le monde antique, et sur son char, ce qui est quand même plus original et sans doute moins confortable. Sur cette route désertique, un autre signe de salut apparaît. Un point d'eau est là, et le baptême va pouvoir avoir lieu là, auprès d'une route, entre un diacre qui s'occupait des veuves et un Éthiopien qui sert une reine. Le christianisme en construction est en pleine réforme. En guise de synagogue, nous avons un char. Le lecteur est un eunuque et le baptême du Jourdain se fait dans une flaque d'eau par un diacre. Extraordinaire comme mutation quand même. Le christianisme devient portatif, nomade, itinérant, et rendu ainsi avec la tradition du nomadisme des premiers Israélites à sa vocation première. Il est ainsi revenu au point où le peuple traversait le désert pour trouver sa terre promise. Les seuls points qui assurent la stabilité de l'ensemble sont la figure du Christ, convoqué toujours, ce serviteur souffrant qui a été crucifié, mais qui est ressuscité, et l'Esprit Saint qui homologue tout acte de foi au Dieu de Jésus-Christ. Voilà les deux points qui font l'Église maintenant. Cette eau du baptême dans laquelle descendent les deux hommes après avoir parlé des Écritures, c'est l'eau qui aujourd'hui encore a permis de baptiser cette petite fille Chloé. Et c'est le même Esprit Saint qui nous a menés à ce lieu de rencontre en pleine lumière, dans l'accomplissement voulu par Dieu. Le livre des Actes nous donne des indices pour nous faire comprendre pourquoi ce haut fonctionnaire sera baptisé là, au bord du chemin, en plein midi. Il lit les Écritures et ce qu'il lit le renvoie à lui-même. Il est en train de lire à haute voix le passage d'Ésaïe qui dit « Et sa génération, qui la racontera ? Car sa vie est enlevée de la terre. » L'eunuque demande de qui l'on parle dans ce passage. Sans doute demande-t-il si c'est le prophète ou Jésus lui-même, mais en même temps il pense « Ne serait-ce pas moi ? Moi qui suis avec une génération retirée à jamais de la terre. » Il se reconnaît lui-même dans cette description. Lui-même n'a pas de génération. Il est l'eunuque qui s'éteindra sans descendance après avoir servi un royaume. Et dans cette figure du serviteur souffrant, l'eunuque reconnaît sa condition et se sent en fraternité avec celui dont il est question. Ainsi, avant de croiser la route de Philippe, c'est la route du Messie que l'eunuque a croisée par le texte qu'il a lu dans Ésaïe. Là encore, l'Esprit Saint était à l'œuvre. C'est d'abord dans son esprit que la figure du Christ a pris vie. Le Sauveur annoncé par les prophètes a rejoint sa condition d'homme et Philippe, le serviteur des indigents, est envoyé auprès de lui pour lui redonner la joie profonde et la promesse de la vie éternelle à travers le geste du baptême. Dans ce récit de baptême un peu fantastique, c'est très improbable aussi du point de vue de la logique, mais très évocateur du point de vue théologique, le cœur de la foi chrétienne s'annonce, comme dans le sacrement que nous avons célébré avec l'enfant baptisé aujourd'hui. La nouvelle conception du peuple de Dieu ne requiert aucun critère physique pour homologuer ses membres. C'est un peuple spirituel, fondé par un Esprit Saint qui fait le lien entre tous et qui souffle sur chacun. Cette libération a de quoi nous encourager à vivre une vie spirituelle débarrassée de toute homologation particulière que nous pourrions ajouter à qui que ce soit et à quelque écriture que ce soit. Tout enfant de Dieu est aimé, aimé par lui a priori. Et c'est ce salut que Philippe annonçait sur les routes de Judée et que nous devons encore annoncer, quelles que soient nos rencontres. Nous ne croisons pas beaucoup de chars dans les rues de Paris en ce moment, je le reconnais. Mais sans doute dans nos vies, combien de personnes croisons-nous qui vivent avec le sentiment de n'être pas dignes de l'amour de Dieu ? Combien se sentent jugés pour ce qu'ils sont et trouvent souvent, alors même qu'ils sont eux-mêmes dans la communion avec Dieu, ils ont l'impression qu'ils sont rejetés et qu'ils ne sont pas compris. Ils n'ont pas choisi ce qu'ils sont la plupart du temps, et au lieu de s'accepter et de s'aimer eux-mêmes comme ils sont, ils demandent le salut sur ce qu'ils voient d'eux-mêmes et ce qu'on leur renvoie d'eux-mêmes. Il est facile de se dire ouvert à tous les possibles, il est facile de le déclarer ainsi, mais il est plus difficile d'annoncer clairement un amour inconditionnel à tous, et de le vivre réellement en l'Église et ailleurs dans notre vie. Combien de différences ne sont toujours pas comprises comme des richesses dans notre société ? Combien de différences sont encore vécues comme des humiliations? Quand on visite, et quand je visite les personnes que j'ai la chance et l'honneur de rencontrer, j'entends la peine de ceux qui souffrent de ne pas être totalement intégrés dans notre société, parfois à cause d'un handicap. Quand j'entends le parcours du combattant de ceux qui ont dû gagner la reconnaissance de leur conjugalité hors norme, par exemple. Quand je vois la peine de ceux à qui il est arrivé un drame et qui payent la double peine parce qu'on moralise sur une réalité qui est déjà si difficile à vivre pour eux, si difficile à partager, si difficile à faire comprendre. Je pense alors à l'eunuque éthiopien et je pense à Philippe et à cet accueil inconditionnel qu'il a eu pour cet homme, alors que Philippe était sans doute lui aussi bien au courant des choses qui existaient dans le judaïsme et qui ne permettaient pas d'intégrer tous. Et je rêve que nous soyons, nous qui nous déclarons disciples du Christ, et nous en priorité, car c'est notre devoir, que nous soyons comme le diacre Philippe, capables d'entendre l'Esprit Saint qui nous appelle à la communion et à l'amour du prochain, sans jugement, sans moraliser sur ce que les gens vivent, mais en écoutant, simplement, en allant les rejoindre sur le chemin où ils sont, même s'ils sont dans un lieu désertique et même s'ils sont très loin de nous. Pas un amour condescendant, pas une pitié bienfaisante, mais un véritable amour, libéré du jugement, libre comme le souffle de l'esprit. C'est mon souhait, et je le souhaite pour cet enfant qui a été baptisé aujourd'hui et pour la vie qu'elle aura et le chemin qu'elle fera. Qu'elle puisse être libre de déployer toutes les richesses de sa vie sans craindre le jugement de ceux qui voudraient l'enfermer à nouveau dans une prison qui n'est plus d'actualité avec le Christ. Que le baptême nous libère et nous guide. Amen. Je vous invite à chanter et nous chantons le 222, les strophes 1 et 2.
Thank you.
Je vous invite à vous asseoir. Voilà, je vous invite maintenant à entendre quelques annonces et c'est Alain Moineau, vice-président du Conseil presbytéral, qui partage ces annonces avec nous. Merci.
Merci. Bonjour à tous. Avant de vous dire quelques annonces, si j'arrive à déplier mon satané papier, il faut d'abord bien sûr que nous remercions Béatrice Cléromazie, notre pasteur, pour... C'est d'abord ce culte consacré à l'école biblique et aux enfants de l'école biblique. Ensuite, bien sûr, pour sa prédication qui nous éclaire et qui nous nourrit. Je vous remercie bien sûr aussi Alexandre Korovitch, notre organiste, le chœur qui nous accompagne et nous régale sous la direction de Fabien Aubé, notre maître de chapelle. Avant que j'oublie, je voudrais vous indiquer qu'à l'issue du culte, il y a un verre de l'amitié dans la grande sacristie qui vous permettra de discuter, bien sûr, et de faire connaissance pour les plus récents d'entre nous. Et enfin, à la sortie, les éclaireurs, les loups, vendent des gâteaux pour pouvoir financer l'acquisition de matériel pour leur camp d'été. Les annonces. Le groupe protestant des artistes se réunit demain de 12h à 13h30 avec un culte, d'abord, qui sera suivi ensuite à 12h30 d'une conférence par Jean-Christophe Barbeau, metteur en scène. Il parlera de sa pièce actuellement à l'affiche, Les carnets de Harry Haller, d'après les loups des steppes de Hermann Hesse. L'entrée est libre, ça se tiendra salle Verne au niveau de la conférence. Séance de grec biblique pour les progressants à 19h30, assumée par Aurore Mériot. Mercredi 15 mai, hébreu biblique pour avancer à 19h, par Christophe Siminski. Le groupe des jeunes de l'oratoire se réunit, et donc pour les plus jeunes d'entre nous ici présents, c'est possible, on y retrouve les lycéens, les étudiants et les jeunes actifs. Alors je ne sais pas à quel niveau s'arrêtent les allégages des jeunes actifs, je pense que c'est plus dans l'esprit que dans l'état physique. Et ils se réuniront dès 19h dans les jardins du Louvre, sur la pelouse sud, derrière l'Arc de Triomphe du Carrousel, devant l'école du Louvre. Bon, avec telle précision, je pense qu'on devrait s'y retrouver. On est prié d'apporter son pique-nique. Et bien sûr, ceux qui viendront seront les bienvenus. Dimanche 19, le culte bien sûr à 10h30, par le pasteur Frédéric Chavel, à l'orgue David Cassan. Et il y aura la garderie, comme d'habitude. Et l'après-midi, de 12h à 15h, d'abord rendez-vous au temple, après le culte, puis pique-nique tiré des sacs, avant visite au Louvre de 13h à 15h, prévoir de payer son entrée. C'est organisé bien sûr par Laurence Tardy, Claude Riffet, Étienne Trouvert. Il est préférable de s'inscrire pour un peu l'organisation. Et enfin, on me demande de vous préciser, pour ceux que ça intéresserait, qu'il reste quelques places pour l'hébergement du déplacement à l'Assemblée du Désert le 1er septembre, et donc ceux qui sont intéressés, qu'il se manifeste auprès du secrétariat assez rapidement, puisque je crois qu'il ne reste pas beaucoup de place. Voilà, et maintenant, bien sûr, c'est le moment de l'offrande.
Nous allons maintenant prier ensemble avec cette relecture des Béatitudes que nous allons partager. Ton prénom ?
Jane.
Voilà, c'est Jane qui va partager avec nous cette lecture. Et je vous invite à prier.
Heureux ceux qui sont assez humbles pour accepter d'être jugés.
Heureux ceux qui ont assez de délicatesse pour porter la souffrance comme si c'était la leur.
Heureux ceux qui sont assez ouverts pour chercher un chemin nouveau, différent de l'agressive affirmation de soi.
Heureux ceux qui ont faim de renouvellement et de justice.
Heureux ceux qui s'efforcent de vivre effectivement dans la grâce. Ils ne jugeront pas précipitamment et ne seront pas lents à pardonner.
Heureux les hommes intègres qui s'opposent à l'injustice engendrée par un usage subtil du pouvoir.
Heureux ceux qui sont conscients d'être responsables de la paix.
Heureux ceux qui sont prêts à accepter la persécution qui attend les hommes intègres qui, en présence d'un pouvoir implacable, s'engagent pour la justice et pour la paix.
Remplis de joie dans le chemin du Seigneur. Seigneur, bénis-nous maintenant, car nous avons le désir de vivre à ta manière au milieu des conflits d'aujourd'hui.
Amen. Et je vous invite à nous lever et à dire ensemble la prière que le Christ nous a apprise. Frères et sœurs, nous avons traversé ensemble le chemin de ce culte. Nous avons été ensemble ici pour louer Dieu et dire combien il était présent dans notre vie et combien sa présence était réconfortante. Maintenant, il nous faut aller le dire aux autres, sur d'autres chemins, ceux qui croiseront nos routes, ceux vers qui nous serons envoyés par l'Esprit. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de toute grâce nous bénit et nous garde. Amen.